Jouli qui est un mot russe et ça veut dire voyou, va-nu-pied, petit chenapan, petit garnement. C'est un petit mot gentil, voilà, pour dire petit coquin, voilà, sur les enfants en particulier.
Et ça vous correspond bien comme nom ?
Faut croire, pourquoi pas. Non, c'est venu aussi en regardant un disque de Bratsch, donc Bratsch qui est un groupe français qui reprend des musiques traditionnelles de l'Est, et donc qui a repris ce morceau-là, russe, et on trouvait que ça sonnait plutôt bien. Donc on l'a gardé.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Joulik, ses membres, son univers ?
Alors Joulik, c'est on est trois musiciens, chanteurs, multi-instrumentistes. Donc il y a Robin qui joue de la guitare, du oud, de la mandole et des percussions et qui chante. Il y a Claire Mingui qui joue du violoncelle et qui chante, et moi-même qui chante principalement et qui joue de l'accordéon et des percussions. Et c'est un groupe qui va entre des arrangements autour des musiques traditionnelles du monde entier et entre des compositions inspirées de sans frontières, des compositions sans frontières, on va dire, avec des arrangements toujours inspirés des musiques traditionnelles, en gros.
Il vient d'où, justement, cet intérêt pour les musiques traditionnelles ?
Il vient de notre parcours, de ce qu'on écoutait petit, enfant, les rencontres musicales qu'on a faites, les musiques qui nous touchent aussi. Au début, je vous dis que c'était beaucoup des musiques de l'Est, des Balkans, maintenant moins. Maintenant, c'est plus de la composition inspirée.
S'inspirer des musiques traditionnelles aussi, on parle de musique traditionnelle, mais c'est en plus largement la musique du monde aussi, ces sonorités-là qui font penser à un tel ou tel pays. C'est vraiment ces différentes couleurs, en tout cas, qui nous attirent aussi, et le fait de les mélanger, d'essayer de pourquoi pas trouver un texte vulgaire avec une musique plus actuelle peut-être, on n'a pas de frontières.
Et c'est la joie aussi de chanter dans plein de langues différentes. Moi, personnellement, j'ai beaucoup étudié ça. J'ai fait beaucoup de stages avec des Italiens, des Bulgares, des Corses, des Arméniens, plein de langues différentes. Et c'est comme un hommage qu'on fait et en même temps une joie, un jeu. Voilà, un jeu autour de ça. Et d'ailleurs, des fois, on écrit en langage imaginaire aussi.
Alors justement, en plus de ce langage imaginaire, est-ce que vous pouvez nous faire une liste exhaustive de toutes les langues dans lesquelles vous chantez ?
Alors actuellement, dans le set actuel, parce qu'il y a des langues qu'on a chantées, qu'on ne chante plus, par exemple, on a chanté le russe, on a chanté pas mal de tzigane, du roumain, ça actuellement dans notre set, il n'y en a plus, mais
macédoine,
tout ça, ouais. Ouais. Maintenant, c'est y a bulgare, il y a judéo-espagnol, il y a italien, brésilien,
il y a un peu français,
du langage imaginaire, wolof. Voilà, on en oublie certainement, mais il y a
portugais,
ouais, il y a pas de grec en ce moment. En fait, ça varie selon les époques de Joulik.
C'est vrai que Mélissa montre comment faire et amène aussi des textes et des chants.
Moi, je suis plus portée sur le chant. Après, effectivement, on fait des arrangements à trois vocaux, mais les chants, souvent, je les amène.
Voilà, on peut trouver des idées de polyphonie. Ouais. On aime bien à trois voix, là, il faut en profiter, du coup, voilà. Beaucoup de polyphonie aussi. Polyphonie vocale, hein, parce que poly, plusieurs, phonie, son, donc plusieurs sons en même temps, simultané. Donc voilà, polyphonie vocale, c'est vrai que on essaie de recréer donc des accords, d'enrichir ces accords-là, parce que voilà, pour les musiciens, on a les accords majeurs, mineurs, mais aussi on peut rajouter d'autres pistes on va colorer un accord pour le rendre, par exemple septième ou je ne sais pas. Enfin, voilà, du coup, c'est cette recherche-là avec les sons et la couleur de la musique des mots aussi, parce que c'est ça qu'on aime, c'est le son des mots. En plus du sens.
Après, voilà, chaque pays a ses propres polyphones. Enfin, il y a des pays où vraiment, par exemple, en Géorgie ou en Corse ou en Bulgarie, dans les traditions, c'est la polyphonie. Chaque pays a sa couleur de polyphonie. Donc, on s'inspire souvent de ça. Après, des fois, on fait des choses vraiment à notre sauce. On travaille beaucoup à l'oreille, hein. C'est-à-dire que c'est pas mental. On passe pas par l'écrit, l'écriture de la musique. C'est-à-dire qu'on fait tout comme on l'entend sur le moment. Après, pour composer, on s'enregistre nous-mêmes, on se réécoute, et puis hop, on change des choses. On passe pas par l'écriture. On sait écrire, mais c'est vrai que cette musique-là, elle est plus orale, en fait.
Vous reprenez des chansons de musique traditionnelle, vous avez aussi vos propres compositions. Pour ce qui est des reprises, comment vous travaillez pour arranger des chansons qui viennent de cultures lointaines et ou passées pour qu'elles trouvent leur place dans le monde d'aujourd'hui?
Cherche,
On voit ce qui vient,
on voit ce
voilà,
qui vient
c'est
par le
magnifique.
cœur et l'émotion en fait aussi que ça nous procure.
Voilà, sur le présent, la manière, enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de règles et de, c'est à chaque fois différent, tout comme dans la composition, hein, il n'y a pas, quelqu'un peut amener un thème, bien sûr, on peut composer autour de ce thème, mais on n'a pas de trame précise, il n'y a pas de mode d'emploi pour la composition. Et cette recherche-là, c'est vrai qu'elle se fait de manière naturelle, j'allais dire.
On ne fait pas une grande différence finalement entre le fait de reprendre quelque chose qui a existé dans le traditionnel ou composer. C'est-à-dire que c'est tout, tout sera le même son finalement. Comment dire? C'est pas pour aplatir, mais tout passe par nous. Donc c'est par notre filtre, voilà. Le filtre de notre cœur, de nos émotions, de ce qu'on ressent sur le moment quand on le chante ou qu'on le joue. On n'est pas puriste, quoi. Voilà. On n'est pas de là-bas, des pays. Enfin, quand on reprend un morceau brésilien, ben voilà,
C'est pas le but de reprendre vraiment à la note près aussi. On s'en inspire, on a les ornements, on a les outils pour, mais c'est pas voilà, on n'en fait pas du cover de traditionnel. C'est recomposé, réarrangé, souvent.
Je me suis pas mal promené sur votre site, le site www.joulic.fr. Sur YouTube, on peut aussi voir pas mal de chansons ou de concerts. Et effectivement, moi, je ne fais pas forcément la différence entre des compositions ou des adaptations. Est-ce que quand vous composez, vous cherchez néanmoins à vous éloigner un peu de l'influence des musiques traditionnelles pour développer un univers qui vous est propre avec peut-être justement cette langue imaginaire?
Je pense que ça se fait par la force des choses, parce que c'est vrai qu'on a eu composé en pensant, enfin en tout cas avec peut-être une patte un peu plus traditionnelle des rythmes, on pourrait penser que c'est un morceau, je pense à un morceau qui s'appelle L'année par exemple, qui sonne assez trad, ou bref, il y en a d'autres, mais là c'est vrai que je pense en évoluant, on amène quand même notre manière de faire, notre touche musicale, en fait, donc ça se fait, j'allais dire, par la force des choses.
Ouais, plus le temps passe, plus notre musique ressemble de moins en moins à de la musique traditionnelle, effectivement. D'ailleurs, là, on a enregistré un disque qui va sortir au printemps, et sur ce disque, effectivement, il y a beaucoup plus de compositions qu'avant, et on grandit aussi, du coup, peut-être on s'éloigne petit à petit
Oui, ce qui nous a bercé
de ce qui
avant.
nous a beaucoup bercé, mais du coup, effectivement, peut-être pour trouver une patte un peu plus à nous, je sais pas. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça.
Ça ne nous empêche pas d'en écouter encore et voilà d'apprécier cette musique-là.
Sole nel verano, io mi
Pour parler de votre patte, quand vous travaillez sur un morceau, que ce soit une composition personnelle ou une adaptation, comment vous décidez des arrangements en fait? Robin, par exemple, tu joues de la guitare, du oud, Mélissa, tu chantes, il y a aussi de l'accordéon, des percussions, vous êtes que trois, vous ne pouvez pas tout jouer. Comment vous décidez de l'architecture d'une chanson?
Alors c'est vrai que là aussi on a chacun notre manière de faire. Personnellement, quand on aborde un morceau, on est en train de composer, j'ai des fois une vue, j'essaie de prendre du recul et de savoir comment ça pourrait sonner, de quoi il y aurait besoin en son, en termes d'instruments. Et là, on peut le construire comme ça, par exemple. Après, ça peut venir aussi de manière tout à fait informelle.
D'improvisation.
Voilà, une improvisation. Et puis là, hop, sur l'instant T, il y a quelque chose qui prend, il y a une couleur qui était vraiment pas attendue. Et voilà, il faut la saisir, essayer de retrouver ça, en tout cas, en réorganisant les choses. Après, voilà, il y a des moments de magie qui ne peuvent pas être...
figé dans un morceau, ouais, des fois.
Ben voilà, puis on peut pas le refaire. Enfin voilà, c'est ça, c'est des moments d'improvisation qui apparaissent. Et voilà, des fois, il faut apprendre aussi à, ah ben voilà, juste à le regarder passer, et puis, parce qu'on pourra jamais refaire la même chose. Et,
voilà. Souvent, on laisse couler, enfin, ouais. on fait tourner quelque chose pendant longtemps, et on cherche, on change d'instrument, on passe à de la percussion, ou à un instrument harmonique, ou alors on va juste faire des voix.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que des fois, alors on cherche un morceau, un stimuli, on cherche à composer, et là, il n'y a rien. Ça peut durer comme ça, des idées musicales qui traînent sur un bout d'enregistreur incarné des années et qui, des fois, ne voient jamais le jour. Et alors par contre, il y a des fois, voilà, un jour comme ça, on va jouer quelque chose et hop, il va y avoir un morceau qui va découler, voilà, en peu de temps finalement. Et ça, c'est les moments de magie qui ne se commandent pas, et heureusement.
Au début de l'entretien, vous avez cité le groupe Bratch. En vous écoutant sur votre site ou sur YouTube, j'ai retrouvé des sonorités qui me faisaient un peu penser à Dead Can Dance. Qu'est-ce que vous avez comme inspiration? Qu'est-ce que vous écoutez?
Alors, c'est rigolo parce que Dead Can Dance ressort souvent voilà, en retour. Donc c'est pour ça on a un sourire en coin, mais on aime bien, enfin moi j'aime bien, j'ai beaucoup écouté Dead Can Dance et la musique de ce store-là, de cette époque, hein, plus largement Pink Floyd, là récemment on réécoutait encore The Doors, des choses qui n'ont peut-être pas à voir avec ce qu'on fait, mais en tout cas on peut s'en inspirer de près ou de plus loin dans le son, dans les effets. Après les inspirations viennent de... Ouais, différents artistes. J'ai beaucoup écouté Avishai Cohen, un contrebassiste israélien. Voilà, il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui dans le monde avec la technologie qu'on a. On peut en écouter tant qu'on veut. Donc voilà, il faut le faire. Et voilà, les inspirations sont multiples, hein, sans frontières là aussi.
Pour parler un petit peu des textes, qu'ils soient en russe, en grec ou en judéo-espagnol, vous pouvez nous dire un peu de quoi ça parle ?
C'est souvent l'amour. C'est vrai que souvent ça parle d'amour ou la guerre ou les mariages. Enfin, en tout cas, au niveau des textes traditionnels, c'est souvent les histoires de mère et de fille ou de fils qui part à la guerre, des choses comme ça. Après, dans notre répertoire, c'est peut-être globalement l'amour qui ressort.
Il y a des compositions aussi, textes, qui ont été traduits, mais qui parlent aussi, à travers l'amour, mais qui peuvent parler de relations.
À la grand-mère.
À la grand-mère.
Les amours impossibles entre les camps, les clans, un gitan et une anglaise.
Et puis des images aussi, il y a beaucoup, enfin même dans la musique instrumentale, on a aussi beaucoup d'images qui nous traversent. Alors, des fois on se les raconte aussi, c'est marrant parce qu'on a des fois pas les mêmes, mais voilà, c'est ça aussi qui enrichit la musique et c'est intéressant.
C'est vrai qu'on a aussi une musique qu'on développe beaucoup en ce moment, c'est une musique sans mots aussi, des fois sans chant instrumental, et on nous dit aussi que des fois ça peut faire penser à de la musique de film.
Est-ce que, en plus d'être musicien, vous avez aussi vous êtes aussi des musicologues. On parlait de musique tzigane, musique serbe, musique judéo-espagnole. Vous devez faire un travail de recherche pour exhumer certains morceaux.
Non, ça se fait tout seul quand on rencontre des gens qui viennent de ces endroits-là, mais sinon.
C'est avant tout les morceaux qui nous touchent, enfin la musique qui nous touche, on a envie de la faire partager alors à notre manière, et du coup voilà, ça peut être du collectage.
Ça s'écoute.
Ça s'écoute, ouais, ça passe par l'oreille, ou quelqu'un nous amène un thème, ou enfin voilà, c'est des rencontres, mais ça se fait de manière aussi naturelle, quoi. Il n'y a pas de recherche. Ah bah après oui, enfin forcément sur certaines choses on peut aller rechercher, hein, sur les langues, sur.
Mais de là à parler de.
De musicologie,
on n'a pas le temps, en tout cas là dans notre vie maintenant, mais c'est hyper intéressant.
C'est
génial de pouvoir faire ces études-là.
Il y a certains groupes qui préfèrent l'ambiance des studios, d'autres groupes préfèrent la chaleur de la scène. Vous êtes plutôt un groupe de scène ou un groupe de studio ?
C'est vrai que c'est deux atmosphères totalement différentes, et chacune a... l'échange avec le public, déjà, c'est vrai que c'est chaleureux. Quoi. La musique, c'est du partage. Quand en retour, on a des sourires, on a des applaudissements, on est. Je sais que ça comble. Hein, donc,
on est plutôt un groupe de scène quand même.
Peut-être un groupe de scène, voilà.
Mais.
Après, le studio permet beaucoup de choses et on peut aussi s'abandonner vraiment soit son instrument avec le groupe, vraiment pour la musique, au service de la musique. Et c'est super intéressant aussi. Mais il manque le public. Donc ouais, c'est vrai que c'est différent. La scène quand même, c'est chouette. Hein.
Ouais. Mais après, on a la chance d'avoir un ingé son qui nous suit depuis le début, depuis 7 ans que le groupe existe. Et cet ingé son-là, il a son propre studio. Donc en fait, quand on va en studio, on est vraiment on se met dans une bulle pour... on prend le temps de bien faire les choses en studio, on aime bien ça, bien faire. On est assez exigeant sur les petits.
On est comme à la maison, alors on nous comprend le temps.
Voilà.
Vous avez sorti un album qui s'intitule Un air, deux ailes en 2017. Vous avez dit tout à l'heure que vous alliez en sortir un autre au printemps. Ça représente quoi la sortie d'un album ?
Eh ben, c'est toujours une grande aventure. Hein. C'est vrai que là, on a notre troisième album. Et c'est vrai que c'est toujours une grande aventure. Ça marque des étapes. C'est vrai qu'on est en plein dans la sortie du... Enfin, on prépare en tout cas la sortie du troisième. Donc, finalisation du son, du visuel. C'est une grande aventure.
Cet album-là, il marque vraiment l'année passée de création, depuis que Claire Minguy est arrivée à l'automne 2016, en fait. parce que le dernier album, Un air de zèle, on l'a fait avec la contrebassiste Gabrielle Gonin, contrebassiste chanteuse, et après Claire est arrivée, et puis on a recréé tout un répertoire, et pour nous c'est très important de pouvoir offrir au public la possibilité de repartir avec ce qu'ils ont entendu aussi pendant le concert, voilà, donc c'est important pour nous de... C'est comme une photo, un album, c'est un temps.
Ouais, c'est ça, parce que la musique évolue sans cesse, et c'est vrai que c'est comme une prise, comme ça attaque une photo du temps, après les morceaux vivent aussi leur histoire en concert, autre chose. Et là, c'est vrai que le fait d'enregistrer, après avoir tourné pendant déjà une année, eh ben ça du coup, les morceaux ont déjà une certaine maturité.
Vous avez expliqué tout à l'heure qu'on trouvait de plus en plus de compositions personnelles dans votre répertoire. Est-ce que les termes de musique traditionnelle, musique du monde, sont pas un peu réducteurs par rapport à la musique que vous jouez ?
Si, mais malheureusement, il faut bien rentrer dans une petite case. Donc musique du monde, c'est dans celle-là qu'on rentre, mais c'est vrai que c'est réducteur.
Il peut y avoir un peu de jazz, il peut y avoir un peu des sonorités, des fois même un peu rock, un peu blues, ou alors, mais... On a joué des fois dans des festivals jazz, dans des festivals, c'est vrai que, et là, j'ai un petit peu de chansons françaises. Il y a, oui, donc, c'est, on a un univers un peu sans frontières, mais voilà, on assume, et sans forcément rentrer dans des cages, justement, mais voilà. Musique du monde, pourquoi pas.
Je rappelle qu'on pourra vous voir sur scène à Faux-la-Montagne le vendredi 2 mars. Le samedi 3 mars, ce sera à Mérinchal et le dimanche 4 mars à Boussac dans le cadre des Bistrots d'hiver. Est-ce que vous avez quelques mots à dire aux auditeurs qui hésiteraient encore à venir vous voir ?
C'est la première fois qu'on vient en Creuse, on est bien contents. Et puis bah voilà, au plaisir de jouer pour les Creusois et Creusoises. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Un plaisir de découvrir cette région. Voilà, aussi.
Hâte de découvrir votre région et voilà de partager notre musique.
Ouais.